minime chez Deleuze, les marchés rassurés par l'intervention des Suisses et la rue française qui poursuit sa lutte contre la réforme des retraites. On va souffler le chaud et le froid dans le parti pris écho, l'actualité à travers le regard, le prisme économique de nos deux observateurs. Paul Gérard, bonjour.
Bonjour François, bonjour tout le monde.
Rédacteur en chef du journal L'Écho et François Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Journaliste éditorialiste à la Libre Belgique. Et on débute donc par ce nouveau conseil d'entreprise extraordinaire chez Deleuze aujourd'hui, prévu à 9h30. Ça fait deux semaines maintenant que le conflit social a éclaté au sein du distributeur, après l'annonce de la direction de vouloir faire passer tous les magasins sous statut de franchisé. Hier, un arrêt de travail a paralysé en partie le dépôt principal de Deleuze et de nombreux magasins sont toujours fermés. Myriam Delmet, la présidente du syndicat, celle qui a été tôt ce matin à Zellik, où ont lieu les réunions entre syndicats et direction, entourée de nombreux syndicalistes et de nombreux travailleurs du groupe Deleuze. Elle était en direct sur la première.
Mais c'est ça le scandale, c'est que si Deleuze était honnête, il viendrait avec un plan de restructuration en disant voilà, on va franchiser, ça va amener à moins de personnel parce qu'on sait qu'un franchisé va utiliser moins de personnel, beaucoup plus de personnel étudiant aussi, et donc on sait qu'un supermarché qui a actuellement 70 ou 80 travailleurs va peut-être se retrouver en franchise avec 50 travailleurs. Moi je veux savoir ce qu'on fait des 30 travailleurs par magasin qui seront excédentaires, et c'est là qu'on dit que Deleuze n'est pas honnête.
François Mathieu, est-ce qu'elle a raison, Myriam Delmet, est-ce que c'est une restructuration déguisée chez Deleuze ?
Il y a un peu de ça, mais en soi, le modèle de franchise n'est pas un mauvais modèle. C'est un modèle qui peut très bien fonctionner, mais je crois que la direction de Deleuze n'aurait pas pu mieux s'y prendre pour torpiller ses ambitions. Depuis le début, on voit des erreurs s'accumuler, aller au forcing. Il y a eu l'histoire des fouilles. Il y a ici le cas de fraude sociale qui a été détecté sur Bruxelles, dans un des plus grands magasins de Bruxelles. Je pense que c'est celui qui génère le plus gros chiffre d'affaires. Donc c'est assez interpellant parce que ça torpille la crédibilité de la direction sur la finalité même du modèle de franchise avec un seul exemple. Et donc, oui, il y a de quoi être interpellé par ce changement, qui est un changement qui n'est pas propre à la société en tant que telle, mais qui est un changement sociétal vers plus de flexibilité. Mais je le répète, la flexibilité n'est pas un mal en soi. Ça peut très bien fonctionner. Il y a des franchises qui fonctionnent très bien, où l'emploi croît et où les travailleurs, qui sont des indépendants, peuvent avoir des rémunérations tout à fait correctes et même supplémentaires en cas de bénéfices. Mais ici, très honnêtement, la direction de l'Est ne vend pas du rêve. Hein.
Vous êtes d'accord avec ça, Paul Gérard? Le statut de franchisé, pourquoi pas, finalement, ça pourrait fonctionner, mais la direction de l'Est accumule les erreurs de communication et de gestion du conflit?
De communication, mais aussi d'approche du dossier dans son ensemble, j'ai l'impression. Alors après, c'est facile, hein, assis tranquille dans un studio au chaud, d'envisager les choses un peu loin, mais en attendant, je ne sais pas s'il y a moyen de faire passer ça crème, comme on dit, super bien non plus, mais il y a un volet restructuration qui ne dit pas son nom, c'est clair. Myriam Delmet a raison de se poser des questions sur les effectifs globaux qui vont sans doute diminuer, y compris d'ailleurs au siège, comme Deleuze a fini par le dire dans un deuxième temps. Je suppose qu'ils sont coachés en matière de communication, mais honnêtement, je me demande s'il ne faut pas changer de conseiller en la matière, parce que ça ne tourne pas bien. On ne fait pas un conseil d'entreprise extraordinaire en mettant des vigiles dans la salle, en disant bon, pour que ça se passe bien dans un climat serein, les bodyguards vont rester. Je veux dire, si vous mettez la barre comme ça, Deleuze a le droit de changer de stratégie, le droit de changer son fusil d'épaule, mais il faut un petit peu le faire avec un minimum de compréhension pour les uns et pour les autres. C'est juste mettre de l'huile sur le feu et non pas de l'eau.
On entend souvent que le groupe est bénéficiaire dans son ensemble, c'est vrai, mais il faut aussi rappeler que la plupart des magasins intégrés sont déficiteurs, donc il y a un problème à ce niveau-là.
C'est Ahold, donc c'est...
Oui, absolument, tout à fait, mais c'est vrai que dans les 128 magasins, il y en a une très grande majorité, je pense les deux tiers, qui sont déficitaires aujourd'hui, donc il faut faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est effectivement une restructuration qui ne dit pas son nom, mais la manière dont la direction s'y prend est tout à fait...
Parce qu'il y a un enjeu derrière. Deleuze est une marque appréciée qui fait partie du paysage en Belgique. Enfin, il y a ceux qui sont plutôt Reut, il y a ceux qui sont plutôt ceci, cela. C'est comme pour les voitures ou pour tout, finalement. Il y a des écoles...
Et certains Belges, en tout cas, sont attachés à leur Deleuze.
Et là, on est en train de bien solidement démolir la réputation cette entreprise qui était pourtant avec pignon sur rue pour des raisons périphérique en fait. On ne s'attache pas au problème principal qui est que ce métier doit évoluer. Ce week-end dans l'écho, on a fait un long reportage sur les franchisés à gauche, à droite. Eh bien, il y en a plein qui fonctionnent très bien et ce n'est pas l'enfer que l'on dit non plus. Et puis, il y a des franchisés qui ont des soucis avec le respect des lois sociales, comme on l'a vu et comme tu viens de mentionner, François. Donc, c'est un mélange. Il n'y a pas un modèle qui est parfait et l'autre qui est nécessairement tout à fait nul.
Ouais. Encore un mot, parce que les syndicats l'ont répété sur notre antenne ce matin. Ils comptent aller jusqu'au bout. Ils veulent que la direction jette ce plan à la poubelle. La direction de l'Aisne n'aura pas le choix. Elle va devoir revoir ses plans, François Mathieu.
Je pense qu'elle aurait intérêt, effectivement, à rétablir la communication. Hein. Je ne vais pas dire repartir d'une feuille blanche, mais à un moment donné, on ne pourra pas forcer la discussion. Là, ici, on est très très mal parti. Je veux dire, on ne discute même plus. Je suis curieux à 9h30 de voir comment va être entamé le conseil.
Pas sûr qu'il se tienne.
Le conseil d'entreprise extraordinaire. Je suis effectivement pas sûr qu'il. Mais à un moment donné, il va falloir communiquer. Et donc, une manière de communiquer, c'est quand même de mettre chacun un peu d'eau dans son vin. Oui. Je pense.
Paul Gérard.
Passer en force, c'est quand même une option, mais il y en a d'autres. Ça fait penser finalement à Emmanuel Macron et.
Exactement.
Et sa réforme des retraites.
On passe en force. Oui, on va en reparler, mais on en vient d'abord. À ce retour, donc, très relatif au calme sur les marchés boursiers qui ont bien réagi après le rachat de Crédit Suisse par une autre banque suisse, UBS, sauvetage du Crédit Suisse en bonne et due forme dirigé par les autorités helvètes afin d'éviter une contagion systémique du secteur financier, en d'autres termes, une crise majeure comme on en a vécu une en 2008. On n'est pas du tout dans ce scénario comme en 2008, c'est ce que disent en cœur tous les spécialistes comme par exemple Eric Dor.
Il n'y a normalement aucune raison rationnelle pour qu'il y ait une défiance à l'égard des banques européennes, de la zone euro, de la Belgique en particulier, mais vraiment aucune. Ce sont des banques très rentables actuellement, très bien capitalisées, très bien surveillées et en plus rentables, surtout avec la hausse des taux d'intérêt. Donc ce n'est que de la méfiance un peu irrationnelle, émotionnelle, qui se passe actuellement, mais il y a vraiment aucune crainte à voir.
Bon, Paul Gérard, est-ce qu'on peut les croire, tous ces experts qui rassurent depuis des jours et des jours, qui disent que non, ce n'est pas le remake de la crise financière de 2008, que non, il n'y aura pas d'effet domino qui fera s'écrouler tout le système, on peut les croire ?
Mais il est trop tôt pour dire qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort, on est le nez dedans. Donc c'est toujours après coup qu'on pourra voir si on avait raison ou si on avait tort. Mais il est du devoir des autorités, alors ici c'est un professeur, qui s'exprime et qui a très bonne réputation d'ailleurs, mais il est de devoir des autorités de dire que les choses sont sous contrôle. C'est quand même.
Si quelqu'un disait le contraire, ce serait quasiment le début de l'effet domino.
Ça aurait un côté irresponsable. Mais, donc dire que c'est uniquement rationnel, rationnellement, oui, les balises sont là. Depuis la crise de 2008, on a beaucoup régulé, on a fait le ménage à beaucoup d'étages. Est-ce qu'on a fait le ménage partout? Mais c'est difficile d'y répondre, et probablement pas. Il y a eu un excès de liquidité dans les marchés qui ont été valorisés, toutes formes d'actifs, comme on dit dans le métier, de façon sans doute poussée et vraisemblablement exagérée à gauche, à droite. Laquelle de ces classes d'actifs va déchanter demain, bien heureux est celui qui le sait aujourd'hui. Mais en attendant, considérer que les marchés financiers, c'est uniquement une histoire de raison, c'est un peu bizarre. On sait très bien qu'il y a un côté émotionnel. Je vous cite une phrase de Pierre Wunsch, le gouverneur de la Banque Nationale, qui fait partie de ceux qui disent, a priori, beaucoup de conditions sont réunies pour que la situation reste sous contrôle. Il dit, il est très difficile d'imaginer le retour d'une crise financière. Il ne dit pas, il n'y en aura pas. Il est très difficile. La tournure est quand même prudente. Il est très difficile d'imaginer le retour d'une crise financière. Ne l'excusons pas. Maintenant, il s'agit d'une question de confiance. La confiance est quelque chose de subjectif et peut-être fragile. C'est le gouverneur de la Banque Nationale qui le dit. Alors, ce n'est pas que la confiance est uniquement on se sent bien, on a les atomes crochus, tu me plais, je t'aime, alors je te fais confiance. Non, il y a des tas de critères précis qui ont été mis en place pour suivre les marchés financiers et leurs agissements. De là à dire qu'on contrôle tout, c'est abusif.
Donc, si je comprends bien, François Mathieu, il suffit que 1, 2, 3 acteurs n'aient plus confiance et tout risque à nouveau de s'écrouler comme en 2008. Est-ce que vous pouvez imaginer ça?
Alors, en tout cas, les ingrédients sont exactement les mêmes que ceux de 2008.
Ah.
Techniquement, c'est pas la même, ce sont pas les mêmes raisons qui expliquent qu'on en est dans une situation. Mais au départ, si on caricature, c'est un manque de contrôle et un manque de confiance. Ce sont les deux raisons principales qui ont expliqué qu'on ait la crise financière en 2000. Aujourd'hui, ce sont les mêmes ressorts, manque de contrôle, manque de confiance. Manque de contrôle du côté des banques américaines, où par rapport aux ambitions du régulateur américain, il y a eu des changements qui ont permis effectivement à certaines banques de taille moyenne de pouvoir gonfler un petit peu artificiellement leur bilan et qui a posé problème et on sait ce qu'il en est advenu. Du côté de Crédit Suisse, c'est la même chose, c'est un manque de contrôle d'une banque qui est coutumière du fait et qui a dû concéder il y a une bonne dizaine de jours qu'il y avait des problèmes de gestion dans son bilan. Donc, il y a un manque de régulation. Et c'est exactement ce qui s'est passé du côté des subprimes. On se souviendra que c'est pas les mêmes produits qui avaient été à la base de la crise financière, mais c'est exactement la même chose. Le régulateur et les agences de... visiblement non. Les agences de notation, en tout cas en termes de régulation en Europe, on en a tiré les conséquences. On a des stress tests bancaires, donc régulièrement on fait des tests pour voir si les banques systémiques, les 30 banques qui sont trop grandes pour faire faillite, sont testées avec différents types de scénarios, de hausse des taux, etc., pour voir si elles peuvent résister. Et là, tout le monde le dit, au niveau européen, a priori, il n'y a pas de souci. On n'a pas détecté de failles majeures au niveau des institutions financières européennes. Est-ce que, ça c'est une autre question plus importante, est-ce que ça empêche qu'il y ait un effet de contagion? A priori, et tout le monde le dit, oui, mais on ne peut pas en être certain. À un moment donné, l'élément principal, c'est le manque de confiance. Si la confiance en va, pouvait faire sauter n'importe quelle institution financière.
On a les mêmes ingrédients qu'en 2008, dit François.
Ben à l'époque, il y avait une chasse au rendement élevé. On cherchait des produits financiers qui rapportaient plus que la moyenne. Et ce sont ces fameux subprimes qui ont se retrouvé dans beaucoup de portefeuilles, parfois même à l'insu de certaines banques qui, tout à coup, se sont dit « Ah, mais est-ce qu'on a ça dans nos portefeuilles ?»« Ah oui, ah bon, tiens, ça vaut plus rien, zut, c'est un problème. »
Il y a des actifs toxiques que recherchaient les banques et qu'ils découvraient pas, effectivement parfois.
Oui. Exactement. Ici, ce qui a fait la culbute du côté de Crédit Suisse, c'est des erreurs monumentales d'investissement dans les produits trop risqués, mais ça semble assez limité à ce que la politique de Crédit Suisse même. Et du côté américain, ce qui est piquant à noter, c'est que ce sont les obligations d'État qui, parce qu'elles étaient en trop grand nombre dans certaines, dans les comptes de certaines banques, ont fini par, avec le phénomène de hausse des taux, perdre beaucoup de valeur et donc mettre à mal ces banques. Donc, comme quoi, on ne parle pas d'actifs toxiques quand on parle des bons d'État, des bons du Trésor américain quand même, mais ça peut quand même se retourner. C'est une question d'équilibre, de sens de la mesure qui se perd régulièrement. Et le problème avec la régulation, on a beaucoup régulé depuis 2008, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais c'est toujours la crise passée qu'on régule. La crise suivante, on l'anticipe souvent assez mal. Ce qui serait problématique maintenant, pour garder vers le futur, c'est que les conditions de crédit se resserrent, que la frilosité augmente entre banques, qu'elles se prêtent moins facilement de l'argent, qu'elles prêtent moins facilement de l'argent aux particuliers et aux entreprises, et que donc ça ait un effet sur l'économie globalement qui s'en retrouverait refroidie. Ça pourrait, à la limite, servir... ça pourrait servir la politique des banques centrales qui cherchent à calmer l'inflation, mais ça aurait un autre impact qui serait un mouvement vert de la récession.
Voilà, en tout cas, les marchés ont bien réagi, on l'a dit, à ce sauvetage de Crédit Suisse par UBS.
Grandement mené par la Suisse.
Effectivement. Et puis, troisième sujet sur la table, c'est l'adoption hier à l'Assemblée nationale en France de la réforme des retraites, adoption de cette réforme, puisque la motion de censure contre le gouvernement d'Elisabeth Borne a été rejetée à 9 voix près, ce qui fait dire à la gauche radicale et l'extrême droite que l'exécutif a perdu sa légitimité.
9 voix de différence ne suffisent pas à nous faire changer d'avis. Le moment est venu de passer à la censure populaire.
Il est évident que le président de la République ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé. Il doit tenir compte de ce résultat, beaucoup plus serré que ce qui avait été annoncé, et très certainement remplacer Madame Borne.
Voilà, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, une centaine de personnes, 140 personnes ont été interpellées hier soir à Paris lors de nouvelles tensions avec les forces de police, et une grande journée de mobilisation est à nouveau prévue jeudi. Il a eu tort ou raison de passer en force, en tout cas c'est ce que le verbatim qu'utilisent ses opposants, de passer en force le président Emmanuel Macron sur cette réforme des retraites, François Mathieu.
Alors, passer en force. Alors, il y a beaucoup d'hypocrisie, je trouve, dans ce dossier. À la base, on connaît les problèmes. Il y a un vieillissement de la population qui coûte de plus en plus cher en termes de dépenses de pension. En France, on est de l'ordre de 6 milliards à peu près par an. Donc, c'est une somme importante qui pourrait amener effectivement le pays dans les années prochaines avec des gros problèmes budgétaires. Ils les ont déjà, comme en Belgique. Ils pourraient s'aggraver à cause de ce poste-là.
Donc, il faut réformer.
À un moment donné, par rapport à une cinquantaine d'années, l'espérance de vie a gagné 10 ans. Il n'est quand même pas sot d'imaginer qu'on travaille un petit peu plus. Alors, le problème n'est même pas l'âge de la retraite en tant que tel, c'est l'âge effectif de la retraite. Et c'est là où je dis qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, c'est qu'entre le texte initial, qui effectivement pouvait être à certains égards imbuvable, voire limite asocial, il a fait l'objet d'amendements, mais extrêmement importants, qui tiennent compte de spécificités comme on les connaît en Belgique, à savoir des jeunes, des travailleurs qui commencent à travailler jeunes, vers 18 ans, et qui, après 41-42 ans de carrière, sont usés. Et effectivement, il y a des métiers pénibles. Les infirmières, on les voit mal, effectivement, à 60 ans, commencer à faire des efforts physiques importants. Voilà, il y a objectivement des métiers pénibles dont la première mouture de la réforme ne tenait qu'imparfaitement compte. Ces amendements ont eu lieu, mais on n'en parle pas, on ne parle pas de fond de cette réforme qui, honnêtement, sur papier, n'est pas sotte. Le problème, c'est que la forme a pris le pas sur le fond et que ce passage en force...
C'est un prétexte pour s'opposer au président Macron, c'est ce que vous nous dites finalement.
Un prétexte. Je pense qu'il y a en tout cas beaucoup de jeux politiques. Mm-hmm. On a vu le jeu notamment de la droite qui n'était pas très clair, honnêtement, qui n'a pas vraiment soutenu le président Macron. Et je pense que ces petits jeux politiques ont éclipsé le plus important, à savoir une réforme des pensions qui est quasiment inéluctable.
Il y a une dizaine de députés de la droite des Républicains qui a voté pour cette motion de méfiance.
Oui, mais ils étaient un petit peu plus nombreux dans le groupe des 60 à s'opposer à cette réforme.
Peut-être que Emmanuel Macron s'est dit, bon, depuis des lustres, on essaye de réformer les retraites en France. Mes prédécesseurs se sont tous cassés les dents là-dessus, parce qu'il y en a eu un paquet de tentatives qui ont toutes échoué. Et peut-être que lui-même, d'ailleurs, lors de son premier mandat, était aussi venu avec ce genre d'approche, il l'avait remisé, il revient maintenant, et peut-être qu'effectivement il dit, cette fois-ci j'y vais, c'est mon deuxième mandat, ce pays a besoin qu'on fasse cette bascule sur les retraites, j'y vais, tant pis, ça fera des dégâts, mais je suis au début de mon deuxième mandat, on pourra récupérer les choses derrière. Et on a l'impression qu'il y va vraiment avec une détermination.
Oui, même si les syndicats bloquent une partie de l'économie française, comme ils le promettent.
Visiblement, ça n'a pas l'air de l'inquiéter trop pour le moment. Mais après, comment on fait pour gouverner un pays qui, de cette manière-là, le 49.3, ce fameux article de la Constitution française, il existe. Oui. Donc il l'active une fois de plus. C'est possible, légalement parlant, c'est prévu. Encore faut-il que derrière, ça soit compris et qu'on ait une société qui continue à évoluer. Le problème, manifestement, les Français ont un problème avec ce dossier des retraites. C'est pas seulement un symbole d'opposition au pouvoir, ça fait longtemps que cette question pose problème. Et moi, j'y vois peut-être, mais qui suis-je pour dire ça, un problème de rapport au travail, un problème de la trajectoire professionnelle, la fin des carrières qui doit être envisagée, et pas seulement l'âge de la retraite.
En tout cas, le président français Emmanuel Macron s'est exprimera demain à 13h sur les télés françaises. On verra si, comme vous le dites, il assume l'après-adoption de cette réforme des retraites et surtout comment il l'assume et comment il en parle aux Français. Merci beaucoup.